Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir à 23h10, France 3 diffuse le premier numéro d'une nouvelle saison de L'ombre d'un doute, émission d'un certain Franck Ferrand. Et bien dans un instant sur Europe 1, Franck va tout nous révéler. Bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette première émission ce soir traite d'un sujet qu'on pouvait croire réglé depuis longtemps et qui pourtant réserve encore quelques surprises. Il s'agit du procès de Marie-Antoinette avec cette question: fallait-il condamner l'ancienne reine? Vous allez voir que la réponse n'est peut-être pas aussi évidente qu'il y paraît.
Alors j'imagine tout de même que vous n'allez pas cet après-midi nous faire l'émission en avant-première.
Ben non, tout de même pas. Je vais laisser un peu de suspense pour ce soir. Ce que je vous propose pour le moment, c'est d'évoquer ensemble ce que nous n'avons pas eu le temps de traiter pour la télé, c'est-à-dire toute la période qui a précédé le procès, depuis le départ de la famille royale pour les Tuileries jusqu'au transfert de Marie-Antoinette à la conciergerie, puis on ira peut-être un tout petit peu au-delà. Il s'est passé tellement, tellement de choses pendant cette période si troublée.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire d'une personne qui soit partie de si haut pour descendre si bas. Je parle tout au moins des conditions matérielles de son existence, car sur un plan spirituel, c'est exactement l'inverse. Marie-Antoinette est partie spirituellement d'assez bas pour s'élever assez haut. Quand a commencé pour la reine ce que l'on pourrait qualifier de marche au supplice? Voilà la question qu'on peut se poser. Dès le milieu des années 1780, notamment avec la retentissante affaire du collier, sa situation a été difficile. Mais c'est en 1789 que les choses commencent vraiment à tourner au vinaigre. Le 4 juin de cette année fatidique pour la famille royale, alors que sont réunis les états généraux, le petit dauphin Louis-Joseph Xavier, le petit dauphin qui depuis longtemps était atteint par la tuberculose, s'éteint à Meudon, au désespoir de ses parents, il n'avait pas 8 ans. Et puis, en octobre, ce sont les fameuses journées des 5 et 6 octobre. Dans la journée du 5, des émeutiers venus de Paris à Versailles pour réclamer du pain à la nouvelle Assemblée nationale. Tous ces gens en colère, dont beaucoup de femmes, mais il n'y avait pas que des femmes, tous ces gens ont été détournés par Mounier, le président de l'Assemblée, vers le château. Alors à ce moment-là, une délégation est reçue par le roi. Une très grande tension règne entre tous ces émeutiers et la troupe qui est censée défendre Versailles, et d'autant plus qu'en toute fin de soirée, le général de Lafayette est arrivé, lui aussi de Paris, à la tête de plusieurs milliers de gardes nationaux. On peut dire que c'est une poudrière, on n'attend plus que la petite étincelle qui va déclencher l'explosion. La reine, en se couchant vers 2h, a refusé l'assistance de tous ces gentilshommes qui étaient là, qui proposaient de garder sa porte. Seulement vers 5h30 du matin, elle aperçut des voix sous ses fenêtres. Alors elle envoie sa veilleuse, Madame Nolle, aux nouvelles. La femme de chambre va voir, elle ne remarque rien de spécial, elle vient rassurer la reine, qui n'insiste pas. Et pourtant, son oui n'avait pas trompé Marie-Antoinette. Depuis un moment, des émeutiers ont bel et bien investi l'enceinte royale. Alors comment est-ce qu'ils sont entrés? Tout simplement par les grilles que les gardes nationaux leur ont ouvertes, tout grand. Dès lors, tout bascule très vite. Au petit jour, un peu avant 6h, un jeune ouvrier tente d'escalader, un peu pour épater la galerie si vous voulez. Il tente d'escalader les colonnes du grand balcon de la cour de marbre. Ce sont les colonnes qui soutiennent le balcon de la chambre du roi. Un garde du corps le met en joue. Il tire, le garçon lâche prise, il vient se briser le crâne sur le dallage en contrebas. Et aussitôt, c'est l'alerte. Faut imaginer cette foule ivre de fureur qui se rue dans l'escalier donnant accès aux appartements du roi et de la reine, ce qu'on appelle l'escalier de marbre, l'ancien escalier de la reine. C'est à ce moment-là que sont tués les gardes Déhut et Varicourt, décapités à la hache par le chiffonnier Nicolas Jourdain, qu'on va surnommer Coupe-Tête. Leur camarade Miomandre de Sainte-Marie, autant qu'il peut, essaie de défendre l'accès de l'appartement de la reine. On finira par le laisser pour mort dans la mêlée. Et pendant ce temps-là, la reine s'est s'enfuit vers l'œil de bœuf, tandis que son époux Louis XVI, alerté par la cohue, est venu à sa rencontre par un passage entresolé. Ils vont se croiser sans se voir, on connaît tout ça, ça fait partie de la mythologie nationale. La reine va se réfugier avec une partie de la famille royale dans la chambre privée du roi, donc en retour sur la cour de marbre. Il y a là ses enfants, il y a Madame Élisabeth, sa belle-sœur, le comte et la comtesse de Provence, et même mesdames tantes, les tantes du roi. Marie-Antoinette est là, qui se tient droite, les cheveux en désordre, la figure pâle et les traits tirés, nous dit Madame de Staël, vêtue d'une jaquette de toile rayée jaune. « Maman, j'ai faim », se plaint de temps à autre son jeune fils, le nouveau dauphin. Lafayette, accouru, suggère au roi de paraître au balcon. Vous connaissez toute cette scène. Louis XVI tente une harangue, mais c'est la reine que la foule veut. La reine, la reine. Alors Marie-Antoinette, avec tout son courage, va se présenter sur le balcon devant cette foule qui finalement est retournée et se met à crier « Vive la reine !» Mais dans la foule, il y en a aussi qui crient « À Paris, le roi à Paris !» Et là, c'est un véritable piège. Peu après-midi, les carrosses du roi viennent se ranger au bas du degré privé. La famille sort du château sous les acclamations. Mais attention, ce sont des vivas plutôt menaçants, sans joie. C'est plutôt le cri de triomphe du peuple, en vérité. À 1h, ce mardi 6 octobre 1789, le carrosse royal se met en branle, direction Paris et le palais des Tuileries. C'en est fini de la monarchie à Versailles, pour la famille royale en général. Et pour Marie-Antoinette en particulier, c'est le calvaire qui commence.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avant votre récit, nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, bien connu des auditeurs. Il s'agit d'Evelyne Levert, qui est historienne, chercheure au CNRS. Et je vais citer deux de ses livres. C'était Marie-Antoinette chez Fayard et Marie-Antoinette, journal d'une reine chez Talendier, dans la collection Texto.
Evelyne Levert, bonjour, merci beaucoup d'être venue. Vous êtes la plus grande spécialiste de Marie-Antoinette, disons-le. Alors, nous venons de quitter la famille royale partant de Versailles. Et elle arrive donc à Paris, on s'installe aux Tuileries, dans un palais qui n'avait pas été habité depuis bien longtemps, et pendant plusieurs années maintenant, la famille royale va vivre au cœur de Paris, dans ces Tuileries.
Oui Franck, merci d'abord de m'avoir invité. Et en effet, cette famille royale arrive dans un palais qui n'a pas été habité depuis 1722.
Oui.
il avait été repartagé en appartements qui avaient été donnés soit à des courtisans, soit aussi à des artistes. Donc ce n'est pas du tout un château qui est fait pour accueillir la famille royale. Il faut littéralement camper. Les premiers jours et la première nuit, le dauphin est dans une petite chambre avec la gouvernante des enfants de France, Madame de Tourzel, qui est obligée de mettre une armoire devant les portes pour que les portes puissent fermer. Et le roi et la reine campent, chacun dans une chambre, proche l'un de l'autre. Et tout est tumulte et embarras à ce moment-là.
Alors néanmoins, on va s'installer aux Tuileries. Il faut dire que ça va devenir un peu plus confortable avec
le
temps.
Bien sûr. Alors, on fait venir de Versailles les meubles, on abat des cloisons, on remet des cloisons et finalement, il y a un appartement pour le roi, un appartement pour la reine et un appartement pour les enfants du roi et de la reine. Ces appartements sont beaucoup plus petits que les appartements de Versailles. Ce sont des appartements qui communiquent les uns avec les autres et la famille royale va vivre là dans une intimité resserrée. Et cette intimité convient parfaitement à la reine.
Elle est presque plus heureuse aux Tuileries qu'à Versailles, disons-le.
Non. Elle est très malheureuse. Elle est très très malheureuse aux Tuileries. Elle vit dans une angoisse permanente. Alors d'abord elle a vécu, si je reprends un tout petit peu en arrière, elle a vécu dans l'anxiété au moment de la réunion des états généraux. L'anxiété s'est transformée en angoisse à partir, disons, du 14 juillet.
La prise de la Bastille.
La prise de la Bastille. Et puis, pendant tout l'été, il y a eu une période de très relative accalmie. La reine a vécu resserrée dans ses appartements à Versailles. Et elle a eu un choc énorme lors des journées des 5 et 6 octobre 1789 que vous venez d'évoquer. Là, elle a quand même manqué d'être assassinée. Le 14 juillet 89, au moment de la prise de la Bastille, on a mis sa tête à prix. Et ses meilleurs amis, sur le conseil du roi, sont partis en émigration. Donc elle n'a plus son cercle habituel.
Alors voilà, pour elle, ce qui est terrible, c'est que Madame de Polignac, son propre beau-frère Artois, tous ces gens-là sont partis le 15 juillet.
Oui.
Et donc elle se retrouve un peu seule et elle a l'impression d'être le dernier rempart de la monarchie. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche.
C'est ce qu'on lui reproche, parce qu'on lui reproche cela déjà depuis 2 ans. Parce que Marie-Antoinette, qui n'était pas du tout une femme politique, est entrée en politique à partir de 1787 et en 1789, elle est vraiment la conseillère du roi. Elle est la conseillère du roi, elle a une énergie que le roi n'a pas et elle s'est rendue compte tout de suite que la monarchie telle qu'elle la conçoit, c'est-à-dire une monarchie absolue, cette monarchie est menacée. Et elle ne voudra jamais admettre que pour survivre, la monarchie a besoin de se réformer complètement et de changer de nature. Et ça, c'est le gros problème politique de la reine. Elle ne veut pas entendre parler d'un changement, elle ne veut pas d'une monarchie constitutionnelle et elle soutient le roi dans la même idée.
Il y a un homme qui dirige l'Assemblée et qui va être de bons conseils pour elle, pourtant c'est Mirabeau.
Oui, mais Mirabeau, pour l'instant, lui apparaît comme un diable, comme l'homme qui a peut-être organisé ces horribles journées d'octobre où elle a failli périr. Vraisemblablement, Mirabeau n'a pas été à l'origine, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle déteste Mirabeau. Et pendant les premiers mois de ce qu'elle considère comme une captivité, mais qui n'en est pas une, aux Tuileries, elle refuse d'entendre parler de qui que ce soit, même, disons, des royalistes modérés. Et Mirabeau est un royaliste modéré qui préconise la monarchie constitutionnelle.
On a bien compris que la politique du côté du roi se fait en vérité chez la reine à ce moment-là.
C'est ensemble, ils font la politique ensemble. Et il y a véritablement, c'est là ils forment pour la première fois un véritable couple.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons. Allons à la chaumière. Bergère, vite, allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit.
Le tendre Bourvil sur Europe 1 qui nous interprète « Il pleut, bergère ».
Et qui nous rappelle un temps qui, lui, n'était pas tendre. Alors, il faut que nous expliquions à nos auditeurs, Evelyne Levert, quels sont les conseillers de la reine ? Parce qu'elle a quand même des gens en qui elle a confiance pendant cette période si troublée des Tuileries.
Alors, il y a les ministres, mais elle n'a pas grande confiance dans les ministres. En particulier, il y a Necker. Mais Necker, les ministres sont eux-mêmes dépassés par les événements. Et les conseillers essentiels du roi et de la reine sont le baron de Breteuil, qui est à l'étranger, qui est parti en émigration, et d'autre part, Fersen, qui est l'ami de cœur ou l'amant de la reine, comme on voudra. Et Fersen, qui est horrifié par les événements qui se sont déroulés et qui conseille à la reine la fuite hors de Paris. Ça va être récurrent.
Ah oui, ça devient presque une obsession.
Ça deviendra
pour elle, en fait,
une obsession parce que la reine et le roi se considèrent à Paris comme prisonniers, alors qu'ils ne le sont pas. La reine a enlevé tous ses abonnements. Enfin, elle ne va plus au théâtre, elle ne va plus à l'opéra et elle reste confinée dans ses appartements. Et quand elle sort, on trouve que c'est une femme qui est froide, qui est distante et elle vit dans une angoisse qui va aller en crescendo.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un véritable bras de fer avec l'Assemblée constituante, évidemment.
Alors, il y a un bras de fer avec l'Assemblée constituante, mais attention, l'Assemblée qui était à Versailles s'est installée à Paris dans
la
salle du
Palais. Elle a suivi la famille royale, quelque part.
Ce qui est tout à fait normal, mais l'Assemblée légifère sous la menace de l'émeute parisienne qui est pratiquement permanente. Et de ce fait, la Constitution qu'élabore l'Assemblée, est une constitution qui a tendance à renier les pouvoirs du roi. Et le roi subit ce que fait l'Assemblée, subit les émeutes de la rue, et il écrit des lettres à ses cousins, c'est-à-dire aux autres souverains d'Europe, pour dire que tous les serments qu'il fait à la future constitution et à la révolution, ce sont des serments qu'on lui extorque
sous
par
la force. Oui, voilà, exactement, sous la contrainte.
Il
y a une dimension religieuse très importante aussi dans l'évolution des événements.
Hein. Oui, mais alors ça viendra plus tard parce que la constitution s'élabore et à l'intérieur de la constitution, purement politique, il y aura la constitution civile du clergé, c'est-à-dire on souhaite, les constitutionnels veulent que le clergé devienne en somme un clergé de fonctionnaires. Et ceci, le roi ne l'admet pas. Mais ce ne sera pas l'élément quand même essentiel qui entraînera Louis XVI à quitter Paris.
Alors nous avons fait ici, ensemble d'ailleurs, une émission sur
Varennes.
Cette fuite à Varennes, comme on l'appelle dans l'histoire, c'est-à-dire ce départ de la famille royale de nuit en grand secret pour s'éloigner de Paris en direction de Montmédy. Finalement, la famille sera arrêtée à Varennes. Ça, pour Marie-Antoinette,
C'est absolument abominable.
Ah oui, c'est la catastrophe absolue.
Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le roi a décidé de s'en aller parce que la Constitution est sur le point d'être achevée. Nous sommes en 1791, au mois de juin 1791, et cette Constitution, il ne l'accepte pas dans son essence même. Il veut bien une Constitution, mais une Constitution qui lui donne bien davantage de pouvoir. Et la reine, bien sûr, ne veut pas de la Constitution, ne veut pas d'une monarchie constitutionnelle, mais elle a aussi peur, mais dans son être propre, elle a peur dans sa chair.
Sa réaction de femme, oui.
Non seulement de femme, mais elle a peur d'être assassinée.
C'est
elle
ça,
a peur
oui,
que
voilà.
Le roi soit assassiné. Elle a peur que ses enfants soient assassinés. Et elle veut respirer. Elle veut la liberté. Pour elle, c'est la fuite. C'est plus une affaire privée qu'une affaire
voilà.
politique. Et pour le roi, c'est une affaire politique.
Exactement. Il y a donc une sorte de convergence dans la décision, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes buts.
Ils ont quand même les mêmes buts, mais la reine pense plus à recouvrer une liberté,
Exactement.
Je dirais, physique.
Alors c'est un échec. Il y a cette scène épouvantable du retour de la famille royale à Paris sous bonne garde et au milieu d'une foule vindicative qui crache aux portières de la voiture.
Oui, alors là, on a dit c'était le char funèbre de la monarchie, mais ce qui est grave, c'est qu'avant de partir pour cette fuite, qui est un peu insensée dans une certaine mesure, eh bien Louis XVI a laissé un document où il explique les raisons de son départ. Et cela prouve aux révolutionnaires qu'il joue double jeu depuis le début de la Révolution. Donc il est complètement discrédité parce que ce document, eh bien, il a été produit devant l'Assemblée. Donc,
et on est pourtant encore plus d'un an avant la chute de la monarchie au moment du sac
oui.
des Tuileries. Ça, c'est
oui.
en août 92
c'est en août
seulement.
92. Alors, au retour de Varennes, les députés qui veulent que leur constitution soit promulguée, les députés se contentent de suspendre le roi, de le contraindre à accepter la constitution, et il accepte la constitution.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Place à votre récit, Franck, sur Europe 1, consacré aujourd'hui aux dernières heures de Marie-Antoinette.
Oui, alors nous sommes allés un peu vite en besogne, j'en suis conscient, mais je voulais qu'on revienne sur l'ensemble de cette descente aux enfers de la reine qui, vous verrez, va s'accentuant à mesure qu'on avance dans le temps. Le 10 août 1792, la foule a envahi les Tuileries, le roi, la reine, la famille royale se sont réfugiés à l'Assemblée nationale, ils sont entrés dans cette salle des manèges, on les a installés pendant un temps dans la loge du logographe et puis on leur a trouvé une petite place dans un premier temps au couvent des Feuillants avant de les transférer au temple. Alors là, Marie-Antoinette s'est dit « Ah mais alors au temple, nous allons être hébergés dans ce qui était autrefois la très belle résidence de son beau-frère, le comte d'Artois ». Pas du tout, ça n'était pas le château du temple où on les conduisait, c'était bel et bien la tour du temple, cette espèce de grande forteresse médiévale qui autrefois avait abrité le trésor des Templiers, un endroit sinistre entre tous et où, désormais, le roi Louis XVI et sa famille seront détenus. On connaît toute l'affaire du procès de Louis XVI à partir de décembre 1792. Le roi est guillotiné le 21 janvier 1793. Dans les formes, si je puis dire, nous y reviendrons tout à l'heure sur la différence entre l'exécution de Louis XVI et l'exécution de Marie-Antoinette pour ce qui est des formes. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, à partir du 21 janvier 1792, la reine est veuve, évidemment. Il faut l'imaginer prostrée, vivant dans une forme de torpeur. Il faudrait arriver à vous transmettre l'atmosphère d'extrême angoisse, d'anxiété permanente dans laquelle cette famille a vécu depuis les débuts de la Révolution, avant même 1789. Et ce climat, chaque jour plus pesant, a fini par se faire tout simplement invivable. La reine ne parvient pas à extérioriser son chagrin. Elle a quelques comment dire, elle a quelques confidents dans sa prison, mais ils sont bien rares. On pense au municipal Goré, hein, qui est un de ses gardiens. Elle lui parle un peu, il voit des larmes rouler sur ses joues quand elle lui parle, mais les psychologues modernes diraient que la reine ne peut pas vraiment faire son travail de deuil étant donné les conditions épouvantables de la captivité qui sont les siennes. Alors elle ne veut plus descendre se promener en bas, mais désormais elle monte se promener sur la tour elle-même, sur le chemin de ronde, et au milieu de cette grisaille uniforme, eh bien parvient tout de même à se manifester un petit rayon de soleil. La surveillance s'est un petit peu relâchée depuis la mort du roi. Il faut dire que les municipaux qui sont là et qui se relaient n'en peuvent plus. Il y a assez peu de permanents. Il y a le couple Tison, dont la femme finira folle. Il y a les Simon, dont on va reparler tout à l'heure. Il y a le municipal Toulan aussi. Alors lui, c'est un personnage intéressant. C'est une nature assez emportée. C'est un méridional, Toulan. Et il va se prendre plus que d'affection, d'une forme de vénération pour cette prisonnière royale ou ci-devant royale dont il a la responsabilité. Il est prêt à aider la famille à s'enfuir et c'est même un projet d'évasion qui va voir le jour à ce moment-là. Nous avons en compagnie, rappelez-vous, je ne sais pas pour ceux qui ont entendu cette émission, on était avec le chanteur Hugo Frey ce jour-là, nous avons évoqué un certain nombre des projets d'évasion de la reine et notamment de ceux du chevalier de Jarjaï, rappelez-vous, qui a été bien étonné de voir débarquer chez lui un membre de la commune de Paris, un billet de la reine à la main. Toulan, dans cette première tentative d'évasion, il y en a eu d'autres, hein, je vais passer un peu rapidement. Toulan est dénoncé par la commune, le projet avorte, la reine pourrait partir seule, mais elle refuse. L'intérêt de mon fils est le seul qui me guide, écrit-elle, à celui qui voulait la délivrer à Jarjaï. L'échec est consommé à partir de ce moment-là, mais paradoxalement, la reine a retrouvé l'espoir. On parvient à lui faire connaître le retournement du général Dumouriez, par exemple. C'est important, ça, c'est quand même le lieutenant-général des armées de la République qui va prendre la tête de la contre-révolution. Il passe à l'ennemi le 4 avril de cette année 1793. Et à ce moment-là, la reine se prend à espérer. Et pourtant, au temple, l'étau se resserre sur les captives royales. Royal, ci-devant royal, finit la relative liberté à laquelle elles ont cru pouvoir goûter un moment, retour des lettres codées, des messages secrets, on arrive néanmoins à leur faire parvenir des messages, seulement la femme Tison, l'épouse du gardien, est là qui veille et qui va découvrir une goutte de cire que Madame Elisabeth, la belle-sœur de la reine, a laissé tomber en essayant d'ouvrir une des lettres que lui avait envoyée l'abbé Edgeworth. À partir de ce moment-là, la répression, en tout cas la surveillance, se fait encore plus pesante, chaque jour plus pesante.
Extrait sur Europe 1 de la symphonie en ré mineur de Rigel.
Alors la reine Marie-Antoinette, prisonnière maintenant du temple, veuve, qui vit dans une angoisse qui n'est même plus exprimable, vous imaginez le quotidien de ces gens qui sont sous le regard permanent des gardes municipaux. Il y a quand même un autre municipal, il s'appelle Michonis, qui va aider à monter un autre plan d'évasion, cette fois avec un gentilhomme gascon, le baron de Basse, lui aussi, nous vous en avons parlé. Les dirigeants, néanmoins, de l'époque, changent tellement souvent qu'il est difficile de tabler sur la moindre stabilité. La reine, de son côté, espère beaucoup de l'étranger. Elle compte sur la cour de Vienne. Après tout, son neveu est empereur en Autriche. Mais ça, c'est très extraordinaire. On peut dire qu'il n'y va peut-être pas de l'intérêt des princes européens. On ne l'a pas assez dit, ça, mais la pauvre Marie-Antoinette a été allègrement sacrifiée sur l'autel de la réalpolitik entre les nations d'Europe. Et pourtant, malgré toute la désespérance du monde, elle se tient encore ferme et droite. Quel courage chez cette femme et de plus en plus chez tous ceux qui peuvent l'approcher et qui admirent la très grande force morale dont elle fait preuve. Et de plus en plus, quelle élévation chez cette femme. On peut dire qu'elle se révèle, Marie-Antoinette, dans les derniers mois de son existence.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui s'intéresse aujourd'hui à la dernière Marie-Antoinette, celle de la captivité, celle de la faim, Franck.
Et oui, dans cette terrible année 1793, le seul fil, finalement, qui retient encore Marie-Antoinette à la vie, elle est très malade, on va parler de sa maladie dans un instant avec Evelyne Levert, le seul fil qui la retient à la vie, ce sont ses deux enfants. L'aînée, la petite madame, a maintenant 14 ans, c'est une jeune fille grave, digne, on le serait à moins, mais c'était son tempérament déjà, naturellement. Elle est parfaitement consciente, hélas, des duretés qu'on lui fait endurer. Quant au plus jeune, le dauphin Louis, duc de Normandie, lui n'a que 8 ans, or, pour sa mère, pour sa tante, pour sa sœur et derrière elle, pour tous les royalistes de France et d'Europe, il est maintenant le roi Louis XVII. Et d'ailleurs, Marie-Antoinette, en dépit des circonstances dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont fort peu favorables à cela, va respecter en sa présence les bases de l'étiquette royale. Elle lui marque des égards qui sont ceux dus à un roi. Elle infléchit son éducation dans ce sens et très vite, évidemment, du côté révolutionnaire, on va l'accuser de traiter son fils en roi. Ce sont les termes d'un rapport à la Convention. Le 13 juillet, tout bascule. La Convention va décider de séparer la reine de son fils. Il s'agit d'une part donc de l'éloigner de cette influence, d'éloigner l'enfant, et puis d'autre part de faire une sorte d'otage bien distinct. Et Madame Royale raconte la scène, racontera beaucoup plus tard, la scène terrible de cette mère qui défend le lit de son enfant, qu'on lui arrache littéralement. L'enfant roi va commencer une sorte de rééducation, si l'on peut dire, teintée d'un fort républicanisme sous l'influence de ceux qui désormais lui servent d'éducateurs. Le savent qui est Simon et son épouse. L'enfant parle avec eux, il raconte notamment toute l'histoire de ces pollutions nocturnes sur lesquelles on va monter, on va échafauder des choses incroyables. Le 6 octobre, il comparaîtra pour cette raison devant le maire et plusieurs dignitaires municipaux. J'allais dire heureusement, à ce moment-là, Marie-Antoinette n'est plus au courant. Elle ne sait pas tout ça car elle a déjà été transférée dans une autre prison, plus dure encore, à la prison de la Conciergerie. Dans la nuit du 1er au 2 août, à 2 heures du matin, on l'a emmenée dans Paris désert jusqu'à ce qu'on appelle la Conciergerie, c'est-à-dire une partie de l'ancien palais médiéval des rois en plein cœur de l'île de la Cité, qui est devenu donc le palais de justice, siège de l'ancien Parlement de Paris. Elle est écrouée dans une cellule à la numéro 280, toute petite cellule de 10 pieds sur 10 avec une table, une chaise, un lit de sangle sur lequel on a quand même mis deux matelas, un malheureux paravent. C'est une vieille dame, très vieille dame, Madame Larivière, qui s'occupe d'elle, qui va d'ailleurs rapiécer sa robe de deuil, et elle est tellement bonne avec elle, la dame Larivière, que finalement elle sera remplacée. On lui met la fille Arelle pour s'occuper d'elle. Il se trouve que cette dame est l'épouse d'un des membres des bureaux secrets de la police. Ça aide, bien entendu. Et paradoxalement, le régime carcéral de la Conciergerie va se révéler peut-être un peu moins dur, si l'on peut dire, que celui en vigueur au Temple. Ce qui est étonnant, et on va parler dans un instant du couple Richard, de Rosalie Lamorlière, etc., c'est que la reine est entourée dans ses derniers moments, qui vont la conduire au procès et du procès au supplice, elle est entourée d'un certain nombre de personnes qui lui veulent du bien, en quelque sorte, et qui essaient, avec les très maigres moyens et les très petites marges de manœuvre dont ils disposent, de faciliter un peu ce qui lui reste de vie. Je suis bien conscient, Evelyne Levert, d'aller vraiment très vite, de passer avec des bottes de 7 lieues sur des sujets qui mériteraient qu'on leur consacre à chacun une émission entière. Revenons peut-être sur la crise et la situation autour de la reine avant de venir à son procès. La France est en pleine guerre tout de même.
La France est en guerre et les armées autrichiennes, austro-prussiennes, avancent. Et ce qui intéresse la reine, c'est de savoir où en sont les armées, parce qu'elle a espéré être délivrée par les armées étrangères. Les armées étrangères qui auraient pu la sauver. Et puis, il y a des négociations. Ça, elle ne le sait pas. Il y a des négociations qui sont faites éventuellement pour l'échanger. On s'active pour délivrer la reine. Il y a de quantité de complots, vous en êtes. Mais rien n'aboutit. Et si on a arraché la reine, si on a arraché le petit Louis XVII à la reine, c'est bien parce qu'on a l'idée d'un complot.
Vous dites « on », c'est la Convention.
La Convention, oui, a l'idée d'un complot royaliste qui serait en train de se tisser pour remettre Louis XVII sur le trône avec l'aide des armées étrangères. Tout ça relève en grande partie du fantasme, mais il ne faut pas oublier que non seulement la patrie est en danger, mais qu'on a décidé de frapper à l'intérieur tous ceux qui peuvent soutenir l'idée d'une restauration monarchique, et le tribunal révolutionnaire a été institué. Et c'est devant ce tribunal révolutionnaire que la reine va comparaître. C'est un tribunal d'exception et en fait il n'y a qu'une sentence possible, c'est la mort, ou bien on reste en vie, mais enfin c'est la mort, et la reine devient le bouc émissaire à abattre puisque c'est elle contre laquelle eh bien on s'attaque depuis des mois, depuis des années.
Alors nous allons revenir tout à l'heure sur justement toutes ces personnes qui ont aidé la reine, non seulement ceux qui ont essayé de la faire s'évader, mais tout simplement le personnel de service qui était autour d'elle. Puisque vous parlez du procès, nous avons en ligne Simon Tiss, qui est le réalisateur du film que nous diffusons ce soir dans L'ombre d'un doute sur France 3, puisque c'est une émission en partenariat avec Europe 1. Je suis heureux de pouvoir le dire à nos auditeurs. Je suis très fier de ce film, pour tout vous dire. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de le dire de vive voix à Simon Tiss, donc je vais le faire par l'intermédiaire de cette antenne. Il a fait un très beau film. Bonsoir. Bonjour Simon Tiss.
Bonjour Franck, bonjour Evelyne, et merci pour le compliment. Bonjour.
Mais oui, c'est bonjour, un compliment qui vient du cœur, car vraiment c'est un film fort. On avance dans ce procès un peu hagard, je dirais, car ce qui se passe est incroyable. Et ce qui est très fort, Simon, c'est que vous avez eu à votre disposition des documents qu'on voit rarement et qu'on n'a tout simplement jamais vus à la télé.
Qu'on n'a jamais vus à la télévision, lors du procès en 1793, les accusateurs n'avaient pas en leur possession. Ce sont des preuves à charge ou à décharge. Et donc nous sommes allés les retrouver aux Archives nationales à Paris, mais aussi à Vienne, ainsi qu'au musée du barreau de Paris, un tout petit musée qui présente pour la première fois la plaidoirie, notamment
de la plaidoirie de
Chauvelagarde, maître oui. Chauvelagarde, l'un des deux avocats commis d'office pour défendre Marie-Antoinette.
On montre également la correspondance avec Mercier Argenteau, tellement importante, et qui heureusement n'était pas entre les mains de l'accusateur public Fouquier-Tinville à l'époque. Ça n'aurait rien changé pour ce qui est de l'issue du procès.
On aurait eu des preuves.
On aurait eu des preuves, alors qu'à l'époque on n'en avait pas. Je ne veux pas trop déflorer ce que vous allez nous montrer ce soir, mais c'est assez extraordinaire. Je peux raconter une petite anecdote de tournage. J'ai, pour un des plateaux intermédiaires, eu entre les mains, vraiment, j'avais des gants, je vous rassure, mais j'avais entre les mains cette ultime lettre écrite par Marie-Antoinette dans le cachot avant de monter à l'échafaud. Cette lettre qu'elle écrit à sa belle-sœur et qui est vraiment bouleversante. Ça a été un moment tout à fait extraordinaire. Ce que vous avez voulu faire, Simon, c'est en quelque sorte établir une version réelle ou transcendante entre vérité, légende dorée et légende noire, en quelque sorte.
Voilà, l'idée, c'était quand même vraiment de rétablir la vérité. Tout n'est pas que légende, comme vous dites, légende dorée ou légende noire. Elle a été accusée à tort et puis aussi à raison. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'arriver à faire quelque chose de...
D'équilibré.
D'équilibrer, parce qu'il faut savoir quand même que le procès était totalement inique. C'est un procès qui s'est déroulé en 48 heures. Donc il fallait un petit peu rétablir, si vous voulez, la procédure.
Merci beaucoup, Simon. Mission accomplie. Et c'est ce soir, dans l'ombre d'un doute, à 23h10 sur France 3.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
D'Orphée et Eurydice de Gluck sur Europe 1, Franck.
Ça nous remet un peu de baume au cœur après toutes ces horreurs que nous venons de raconter. Et ce qui est intéressant, Evelyne Levert, dans cette affaire, c'est de voir à quel point l'opinion du public, à travers les temps, a changé sur Marie-Antoinette.
Mais vous savez, Marie-Antoinette a toujours eu ses turiféraires et ses ennemis. Et aujourd'hui, cela existe encore. Il y a la légende dorée qui a été transmise, disons, par les royalistes, et puis par un certain nombre de gens, disons, de bonne volonté, se sont apitoyés sur les malheurs de la reine.
Et puis aujourd'hui, c'est devenu une affaire de public.
Attendez, je vous parle, moi, du 19e siècle, du 20e siècle. Et puis, il y a eu la légende noire véhiculée par la République. Et puis, à partir, disons, des années 1920, etc., alors, il y a eu des biographies sérieuses de Marie-Antoinette. Il y a eu la fameuse biographie de Stefan Zweig, qui reste toujours d'actualité. publiée, cette biographie dans les années 30. Et puis, il y a eu le bicentenaire de Marie-Antoinette en 1955.
Avec une grande exposition à Versailles.
Avec une exposition à Versailles. Et puis, il y a eu un certain nombre d'ouvrages depuis, qui, et surtout une autre vision de la Révolution, qui ont rétabli un peu une autre place à Marie-Antoinette. Mais vous avez toujours les deux légendes, parce que lorsque j'en parle, disons, à des personnes qui ne sont pas averties et qui n'ont pas vraiment de culture historique, alors c'est ou positif ou négatif. Et là, eh bien, il faut essayer de faire la part des choses. Mais je pense que Marie-Antoinette fascine, parce que ça a été un miroir. Et chaque époque s'est vue dans Marie-Antoinette. C'est une femme miroir, Marie-Antoinette.
C'est étonnant de voir à quel point les petites japonaises aujourd'hui s'arrachent les mangas à Marie-Antoinette.
Oui. Et alors, quand il y a eu le film de Sofia Coppola, c'était quand même surprenant. On voyait une femme extrêmement frivole. Eh bien, cela correspond à une certaine frivolité
de notre époque.
Société.
Et voilà
l'icône de la mode. Oui, mais enfin, c'est ça et c'est pas ça du tout.
Alors il y a des fanatiques au très bon sens du mot, des passionnés qui nourrissent chaque jour une association très remarquable qui s'appelle l'association Marie-Antoinette. Et nous avons au téléphone la fondatrice de cette association, Michèle Lorrain. Bonjour Michèle Lorrain.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone.
Ah oui.
Vous avez fondé une association, j'allais dire, qui vous a dépassé, qui est devenue maintenant une véritable institution.
Oui, on peut le dire, et surtout que grâce à Internet, parce que nous avons, avec des amis, il y a un site qui s'appelle le Boudoir de la Reine, qui est très, on peut dire pas écouter et regarder, on peut dire les deux.
Oui, et ce qui est très remarquable dans ce site, c'est que chacun apporte sa petite pierre, et
bien
donc
sûr.
On a des études extrêmement fouillées, très très détaillées, des revues de bibliographie notamment, très détaillées également.
Ah oui, nous avons une de nos membres, Française qui habite en Belgique, c'est une véritable bibliothèque vivante, et elle nous sort même des ouvrages dont on n'en a jamais entendu parler.
Ah oui. Alors, il faut dire que ce site s'appelle donc le boudoir
de la Reine.
De la Reine, hein, c'est ça, c'est le meilleur moyen d'y aller, c'est quand même...
Ah oui, et puis toute l'équipe qui sont des passionnés, et c'est vraiment... et puis des gens érudits, si vous voulez. Et puis c'est surtout le plaisir de recevoir des jeunes qui viennent vers nous et qui essayent de comprendre.
Alors, ce qui est intéressant, et ce site et cette association en sont l'expression, c'est que Marie-Antoinette n'est pas seulement le personnage historique, la reine de France, le personnage majeur de la Révolution que nous venons d'évoquer. Elle est en quelque sorte une sorte d'icône du XVIIIe siècle.
Tout à fait. Et notre Pierre Verlet disait, on n'aurait pas dû dire le siècle Louis XVI, enfin pas le siècle, le style Louis XVI, mais on aurait dû dire le style Marie-Antoinette.
Oui, le Pierre Verlet était le plus grand connaisseur dans les années 60 et 70 du mobilier royal.
Bien sûr. Et c'était ce qu'il a toujours dit, et c'est vrai. On a créé pour elle, on a la musique, les tissus, les meubles. Regardez, on va essayer on cherche de l'argent pour le boudoir turc de la reine. Malheureusement, le mobilier a disparu, mais il y a un appel au peuple à Fontainebleau. Il y a des choses extraordinaires.
Vous allez voir que dans l'émission qui sera diffusée ce soir, Michèle Lorrain, on est relativement sévère à l'égard de l'attitude politique de Marie-Antoinette. Vous-même, on peut dire que vous n'êtes pas une idolâtre du personnage.
Pas du tout. Moi, si vous voulez, dans ce personnage, j'accepte la reine telle qu'elle est. C'est-à-dire la reine, la femme, la mère, c'est comme ça. Je ne l'idolâtre pas, de toute façon on ne peut pas idolâtrer quelqu'un, c'est assez prétentieux si vous voulez.
Oui, bien sûr.
Et puis comme on peut dire avec humour, il y a la reine frivole et puis il y a la martyre de l'autre côté. Bon, ben, faut aller entre les deux. Mais vous dites, ce soir, ça va être assez difficile, mais permettez-moi d'évoquer quelque chose. Au mois de juin, j'ai eu en main les 42 lettres politiques de la reine qui sont en Suède. Et j'ai eu le grand honneur aussi, avec des gants blancs, de les avoir en main. C'est-à-dire les fameuses lettres que le soir de février 92, lors de leur dernière entrevue, qui était une entrevue politique entre Fersen et elle, elle lui a remis... par sécurité, les lettres qu'elle entretenait avec Barnave.
Et
bien, quand on les lit, elle est un homme politique,
n'est-ce pas,
avec l'accord du roi.
Mais oui.
Et là, c'est un personnage c'est un personnage qu'on découvre. Elle n'avait pas la formation, malheureusement. Elle n'avait, comme vous le disiez tout à l'heure, elle n'avait pas la personne qu'il fallait avoir à côté d'elle. Si elle avait eu un homme de caractère, enfin un grand politique, on aurait fait des grandes choses.
Oui, sans doute.
Mais là, aux Tuileries, elle est un sacré bonhomme, il faut dire le mot.
Merci beaucoup Michel Lorrain de nous avoir fait partager votre passion. Je rappelle donc que vous êtes la présidente fondatrice de cette association Marie-Antoinette et le site sur lequel on peut aller c'est le boudoir de la reine. Evelyne Levert, on se rend compte en vérité que votre personnage, que votre Marie-Antoinette domine son temps dans tous les domaines.
Si l'on veut. Et en tout cas, Madame Lorrain faisait allusion aux lettres de Barnave. Je les ai publiées dans la correspondance générale de Marie-Antoinette que j'ai publiée chez Talendier en 2005.
Et le dernier ouvrage que vous ayez fait paraître, ça s'appelle « Le temps des illusions, chronique de la cour et de la ville ». C'est paru à l'hiver dernier. Et ça, ça parle plutôt du règne de Louis XV.
C'est le règne de Louis XV.
C'est chez Fayard. Merci beaucoup, Evelyne Levert.
Merci à vous.